VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Édition du vendredi 9 décembre 2022. Il est 17h30 temps universel. Pour commencer, le sommaire. Coupe du monde de football Qatar 2022, Brésil-Croatie et Argentine-Pays-Bas sont les premières affiches des quarts de finale. L'ONU se dit horrifiée par le massacre d'une centaine de personnes en RDC. Le gouvernement sud-africain présente un projet de dépénalisation de la prostitution. Le corps d'un étudiant zambien tué en Ukraine va être rapatrié dimanche. La basketteuse américaine Brittney Griner est arrivée ici aux États-Unis après avoir été échangée contre un marchand d'armes russe. Et dans quelques instants, la page spéciale consacrée à la Coupe du Monde, c'est avec Eric Manirakiza. Et nous accueillons... Et nous accueillons dans ce studio Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Oumfa.
Voilà, le Brésil affronte en ce moment la Croatie. C'est le premier match des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022.
Tout à fait Oumfa. Le Brésil qui a récupéré Neymar, poussé en prolongation par la Croatie de Luka Modric à Doha. Les deux équipes s'affrontent pour une place dans le dernier carré lors du premier choc des quarts de finale du Mondial avant le classique entre l'Argentine et les Pays-Bas. Eh bien, les deux équipes sont à égalité en but partout, mais le match ne pouvait pas se décider avant la fin du temps réglementaire parce que les deux équipes étaient à égalité à l'issue justement des 90 minutes et de la prolongation. Je suis en ligne avec Karim Ben Armor, journaliste sportif à Tunis. Karim, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Eh bien, l'incroyable Croatie résiste.
Bah oui, écoute, quel incroyable scénario. On dit souvent en NBA que le Money Time appartient au grand champion. Et après le but de Neymar, on croyait vraiment que le tour était joué et que les Croates n'allaient pas pouvoir dépasser tout le jeu qu'ils ont pu faire au cours des 116 minutes. Tout ce qu'on a vu au cours du match, c'est-à-dire regroupement défensif, circulation de la balle, sans véritablement réussir à faire mal. Et là, l'incroyable a eu lieu avec ce but d'égalisation. C'est vraiment un scénario à la Hitchcock.
Qu'est-ce qu'on peut, disons, prédire ?
Ben écoute, moi j'ai l'impression que c'est le scénario véritablement du tour précédent qui est en train de se dérouler. Hein, c'est-à-dire que les Croates avaient tout fait pour arriver jusqu'au pénalty. Et là, carrément, que peut-on prédire ? Rien. Un coup d'éclat, peut-être, avant la 120e minute, avant la fin des prolongations, un coup de génie, que ce soit du côté brésilien ou croate, ou alors tout simplement, un but. D'autant plus que là, je crois qu'au niveau des prolongations, ils ont rajouté à peu près, si j'ai bien vu, 8 minutes. Donc, il y a encore du temps de jeu. Et on espère véritablement que cette rencontre se plie avant les prolongations, avant les pénalties. Sinon, écoutez, ça sera non pas un coup de sort, mais qui maîtrisera le plus ses nerfs et qui aura le plus de talent dans les tirs au but.
Je suis également en ligne avec Tarsis Harilimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond. Tarsis, on a retrouvé le Jogo Bonito du Brésil, encore un but magnifique du redoutable Neymar, mais qui ne délivre pas pour l'instant la Seleção qui vient d'encaisser.
Oui, Neymar, avec son travail, il a essayé de libérer le Brésil. Et Livakovic, le gardien croate, est impeccable aujourd'hui. Et pour la Croatie, bien sûr, Petković vient de marquer vers les dernières minutes. Et là, on va passer finalement tout à l'heure au tir au but. Il ne reste que quelques minutes, quelques secondes d'ailleurs. Et donc, ça sera un match qui ressemble un peu au match Maroc-Espagne.
Tarsis, vous donnez des cours à des entraîneurs. Quelle est la lecture que vous faites des deux stratèges de la Croatie? Quelles sont les failles que vous avez vues? Quels sont les points forts là?
Bien, la Croatie, jusqu'à présent, il faut dire que Alisson n'était pas inquiété par ce trio d'attaque, Pazalic, Kramaric, Perisic, et surtout qu'on a fait des remplacements. Et de l'autre côté, je pense que Tite a été plus ou moins malin, parce que Pedro est sur le terrain, il a remplacé Richardson, et on voit bien aussi que Anthony est en train de faire un très bon match. Donc ça, c'était aussi une façon de préparer. Et la dernière partie du match, et surtout aussi les pénaltys. Donc je pense qu'ils ont très bien joué, ils ont fait leur match, les sélectionneurs, que ce soit Dalic ou Tite.
Karim, l'objectif de la Croatie est atteint.
Les tirs au but.
C'est ça.
Voilà, les tirs au but. Bah, écoute, maintenant... il y a de grands tireurs de pénalty du côté du Brésil. Les Croates ont montré leur efficacité dans cet exercice au tour précédent contre le Japon. Maintenant, ça va être aux gardiens aussi de jouer leur rôle. Et on a vu donc le gardien croate s'interposer plusieurs fois aux tireurs brésiliens au cours de la rencontre. On va voir qui va être le plus adroit à convertir ses tirs au but, ou alors qui va être le plus adroit des gardiens à s'interposer.
Avec 77 buts, Neymar a rejoint Pelé en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection brésilienne en ouvrant le score lors de cette prolongation du quart de finale du Mondial 2022 contre la Croatie. Quelle grande star marquera de son génie l'histoire de cette Coupe du Monde? Enfin.
Merci Eric. On vous revient tout de suite pour les tirs au but. Et maintenant, la suite de l'actualité. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit vraiment horrifié par un massacre de civils en République démocratique du Congo, où il a prévu de se rendre l'an prochain. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Selon le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, il y a un réel besoin de mettre fin à ces combats qui se déroulent dans différentes parties du pays, en particulier au Nord Kivu. Ce sont toujours les civils qui en souffrent, ajoute Volker Türk. Il s'est dit profondément préoccupé par la situation, surtout concernant l'exercice des libertés démocratiques en RDC. Au moins 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, ont été exécutés arbitrairement par balle ou par l'arme blanche fin novembre dans deux villages de l'est de la RDC, d'après une enquête préliminaire de l'ONU qui accuse la rébellion du M23. Lundi, les autorités de Kinshasa ont évoqué un bilan d'environ 300 morts dans le village de Kicheche, dans le Nord Kivu. Le M23, ancienne rébellion majoritairement Tutsi, a repris les armes en fin d'année dernière et conquis de larges portions du territoire dans le Nord Kivu. Selon les autorités congolaises, des experts de l'ONU et la diplomatie américaine, le mouvement du 23 mars est soutenu par le Rwanda, ce que dément Kigali. Le Rwanda accuse en retour Kinshasa de collusion avec les FDLR, un mouvement Hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.
La Belgique a appelé ce vendredi le Rwanda à cesser toute assistance au mouvement rebelle du M23, auquel une enquête préliminaire de l'ONU impute un massacre d'au moins 131 civils fin novembre en RDC. Le M23 doit cesser immédiatement les hostilités et se retirer des zones sous son contrôle. La Belgique appelle le Rwanda à cesser toute assistance au M23 et à continuer d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour le persuader à se réengager dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire, a réagi la diplomatie belge dans un communiqué. Il s'agit d'une très rare mention de la part d'une puissance européenne du soutien supposé de Kigali au mouvement rebelle. En Afrique du Sud, le gouvernement a présenté ce vendredi un projet de loi pour dépénaliser la prostitution. Selon lui, ce projet vise à lutter contre les violences faites aux femmes qui ne cessent de s'aggraver. On espère que la dépénalisation réduira les atteintes subies par les travailleuses du sexe, a déclaré le ministre de la Justice lors d'un point de presse. Cela permettra un meilleur accès aux soins, moins de discrimination et de stigmatisation, d'après lui. Selon les associations, le pays compte quelque 150 000 prostituées et selon les chiffres de la police, les viols et agressions sexuelles ont augmenté de 13% entre 2017-2018 et 2021-2022. Le corps d'un étudiant zambien recruté dans une prison russe avant d'être tué lors de combats en Ukraine va être rapatrié auprès des siens dimanche, a annoncé ce vendredi le gouvernement zambien. Lemekani Nathan Nirenda, 23 ans, qui purgeait une peine de prison près de Moscou, a été tué en septembre en combattant du côté de l'armée russe. La Zambie avait demandé le mois dernier des explications urgentes à la Russie sur les circonstances de sa mort. Deux semaines plus tard, le groupe paramilitaire russe Wagner reconnaissait avoir recruté le jeune homme en prison, affirmant qu'il avait volontairement rejoint Wagner avant de mourir en Ukraine. Les États-Unis ont imposé ce vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Nani Talani nous en dit plus.
Les sanctions pour violation grave des droits humains gèlent les avoirs de l'ancien chef d'État et interdisent toute relation commerciale avec lui, indique le département du Trésor. M. Condé est accusé d'avoir ordonné à ses ministres, début 2020, de créer une unité de police dédiée à répondre aux manifestations anti-Condé en usant de la violence si nécessaire. Cette unité s'est livrée à des arrestations arbitraires et, autour de la présidentielle de 2020, a tué plus d'une dizaine de personnes, dont certaines à bout portant, alors qu'elles ne présentaient pas de danger immédiat, selon le Trésor. Alpha Condé était devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de Guinée. Il a entretenu de bonnes relations avec Washington jusqu'à ses tentatives pour amender la Constitution en 2020 afin de briguer un troisième mandat, ce qui avait suscité de nombreuses manifestations violemment réprimées. M. Condé, 84 ans, a été renversé le 5 septembre lors d'un putsch conduit par le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de ses forces spéciales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La star américaine du basket Brittney Griner est arrivée ce matin ici aux États-Unis après avoir été libérée d'une prison russe en échange d'un marchand d'armes surnommé le marchand de la mort, Lionel Gaïma.
L'Africaine américaine de 32 ans, double championne olympique, a atterri à San Antonio au Texas vers 10h40 GMT. Vêtue d'une veste rouge, elle est descendue de l'avion avant que le jour ne se lève. Dans un communiqué, la famille de Brittney Griner a exprimé sa sincère gratitude envers le président Biden et son administration pour le travail inlassable qu'ils ont accompli pour ramener Brittney à la maison. L'épouse de la basketteuse, Cheryl Griner, s'est dite submergée par les émotions. La joueuse de basketball, qui devait être transférée vers un centre militaire pour se rétablir, à bon moral, a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, sur MSNBC. Nous lui donnerons accès à tous les professionnels de santé dont elle a besoin pour s'assurer qu'elle va bien, a-t-il ajouté. Brittney Griner, qui avait été arrêtée en Russie en février en possession d'une vapoteuse contenant du cannabis dilué dans un liquide, et Victor Booth, 55 ans, qui purgeait une peine de 25 ans dans une prison américaine, ont été échangés dans un aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Un autre Américain détenu en Russie, Paul Whelan, n'a pas été inclus dans l'échange.
Le président chinois Xi Jinping a vanté ce vendredi les liens étroits en matière de sécurité et d'énergie entre Pékin et les pays du Golfe. Lors du troisième et dernier jour de sa visite, le dirigeant chinois a assisté au sommet du Conseil de coopération du Golfe et à une réunion plus large avec des dirigeants arabes. Abdourahman Dia.
La Chine est impatiente de travailler avec l'Arabie saoudite et les pays arabes pour faire de ces deux sommets des événements majeurs dans l'histoire des relations sino-arabes et des relations Chine-CCG, a déclaré Xi Jinping. Arrivé mercredi dans la capitale de la monarchie pétrolière du Golfe, le dirigeant chinois a rencontré le roi Salman et son fils, le prince Mohamed, avec lesquels il a signé hier jeudi une quarantaine d'accords dans différents domaines, allant de l'hydrogène au logement, mais dont les détails n'ont pas été communiqués. La Chine continuera d'importer de grandes quantités de pétrole brut des pays du CCG de manière continue, a-t-il déclaré, s'engageant également à étendre d'autres domaines de coopération énergétique, notamment les importations de gaz naturel liquéfié. Selon un communiqué conjoint publié vendredi, les deux parties ont souligné l'importance de la stabilité sur le marché pétrolier, sujet alimentant les tensions entre le premier exportateur de brut au monde et les États-Unis, alliés historiques de Riyad. Les dirigeants chinois et saoudiens ont également évoqué la nécessité de se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre plutôt que leurs sources dans la lutte contre le changement climatique, une approche défendue par Riyad.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Plusieurs chefs d'État et d'entreprise, ainsi que des institutions financières, des organisations de la société civile et des journalistes venus de plus d'une centaine de pays disputent des solutions mondiales contre la corruption. C'est à la faveur de la 20e conférence internationale de lutte contre la corruption de Transparency International qui se déroule depuis le 6 décembre à Washington DC, la capitale des États-Unis. Les analystes notent que la corruption aggrave de nombreux problèmes dont la pauvreté, mais aussi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent la lutte contre ce fléau. Pour en parler, Nani Talani a joint Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption, qui est présente aux Assises.
Premièrement, je dirais la pauvreté, je dirais les conflits, comme je le mentionnais plus tôt, le contrôle des institutions gouvernementales et juridiques, le trafic d'armes, de personnes, de drogue, évidemment la déstabilisation en fait des pays qui en résulte de tout ça, et les conflits pas seulement à l'intérieur des pays, mais entre les pays. Parce que lorsque on alimente ceux qui sont là pour créer des problèmes dans notre grand monde, évidemment, ils sont capables d'en faire beaucoup plus, de détruire beaucoup plus qu'ils le feraient sans ces ressources et sans ces appuis qu'ils reçoivent. Mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent et qui sont là, parce que quand on parle de la technologie de l'information, ça facilite, évidemment, la possibilité de cacher ces argents de toutes sortes, ces ressources de toutes sortes, mais en même temps, ça permet de dépister, de retrouver aussi certaines de ces ressources-là. Donc, autant que la technologie de l'information aide à faciliter la corruption, en même temps, ça l'aide à dépister là où on peut retrouver les ressources et les personnes qui contrôlent ces ressources illicites.
Quelles sont les opportunités qui peuvent être exploitées pour combattre la corruption?
Les leaders de différents pays se réunissent déjà depuis un nombre d'années, mais dans les dernières années, ont pris des engagements très importants. Nous avons les objectifs du développement durable des Nations Unies, surtout l'objectif 16 pour la paix, ainsi de suite. Il y a aussi les conventions des Nations Unies, de l'OCDE, des régions, les conventions régionales et plus. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ces engagements, nous avons ces conventions, ces objectifs qui ont été bien déterminés. Et dans le moment, il y en a de plus en plus sur le changement climatique aussi.
On voit bien qu'il y a plein d'engagements qui pourraient favoriser la lutte contre la corruption. Mais quel est le problème?
Le problème, c'est que la mise en œuvre de ces engagements, bien souvent, tarde et qu'on ne les retrouve pas aussi rapidement qu'on devrait le faire. Ou certains pays s'engagent, mais ensuite ne donnent pas suite. Si ça se faisait, on pourrait voir une différence beaucoup plus importante contre la corruption que nous avons à ce moment ici.
Que peut-on dire de l'implication des citoyens?
Un autre aspect, c'est vraiment l'implication des sociétés, de pouvoir encourager les gouvernements d'impliquer leurs citoyens lorsqu'ils ont des problèmes à régler sur les meilleurs moyens de le faire. Je pense qu'un autre moyen important, c'est que de plus en plus, il y a un nombre de pays, ce n'est pas suffisamment nombreux, mais il y a un nombre de pays qui ont déjà mis en œuvre cette possibilité d'établir des registres pour les propriétaires, les vrais propriétaires de ressources, que ce soit des entreprises ou autres. Et évidemment, ce qui est important, c'est que ces registres-là deviennent publics. Et ça, c'est un autre moyen que plusieurs gouvernements se sont engagés à faire et certains l'ont déjà fait. À ce moment-là, ça devient encore plus difficile de cacher son argent, non pas pour faire des bonnes œuvres, mais seulement pour pouvoir, évidemment, aussi cacher l'argent qui est illicite.
C'était Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption, au micro de Nanit Talani.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Retrouvons Eric Manirakiza pour parler de la Coupe du Monde. Coup de tonnerre au Qatar. Eric, le Brésil est éliminé.
Oui, la Croatie vient d'éliminer le Brésil au bout du suspense et Suisse en demi-finale. Le match s'est décanté au bout de ce suspense à l'issue des tirs au but, disons un exercice qui réussit jusque-là aux Croates. Rodrigo, le joueur du Real Madrid, a raté le premier penalty pour les Brésiliens et le quatrième penalty tiré par Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, a tiré sur le poteau et la Croatie a marqué tous les quatre tirs. Voilà l'issue du match. On a vu Modric qui est venu consoler son coéquipier du Real Madrid, Rodrigo. Et on voit Neymar qui s'effondre, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et il faut aussi souligner qu'il a livré un masterclass dans cette rencontre avec un but magnifique qui restera dans les annales du football.
Merci Eric, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de ce match et du second match qui opposera tout à l'heure l'Argentine aux Pays-Bas. L'auteur et entrepreneur social et cofondateur de Lightning Africa avec le chanteur Akon, Tion Nyang, a récemment lancé au Sénégal une école de formation au métier de l'agriculture. Connu pour son implication dans la campagne de Barack Obama en 2008, il a choisi d'écrire et d'entreprendre dans son pays natal et en Afrique pour inspirer les jeunes. Sur la situation politique au Sénégal, marquée par les récentes violences à l'Assemblée, Tion Nyang déplore le niveau du débat dans son pays où il vit depuis qu'il a quitté les États-Unis. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Abdourahmane Dia.
Tout ce qui bloque aujourd'hui en Afrique, on le sait, hein, on a tout ce qu'on a besoin pour développer. On a toutes les ressources naturelles qu'on a besoin. On a le capital humain qu'on a besoin qui est là-bas, mais aussi dans sa diaspora, qui n'est pas utilisée d'ailleurs. L'Afrique aujourd'hui, son problème de leadership. C'est exactement ça, c'est un problème de leadership. Ça n'est seulement en Afrique que vous voyez que les politiques, que les politiciens sont plus riches que les businessmen. Les politiques, la majeure partie, c'est pas tout le monde, parce qu'on a des politiciens vraiment honnêtes qui travaillent aujourd'hui pour changer cette paradigm shift pour l'Afrique. Mais la majeure partie de nos politiques, ils sont là-bas pour se servir. Parce que comment on peut expliquer un politicien qui n'a pas de business, qui est un milliardaire, qui a beaucoup plus d'argent que les autres, l'argent qu'on doit utiliser pour construire nos hôpitaux, pour construire nos écoles, pour construire nos routes, pour construire l'avenir, donner de l'espoir à cette jeunesse africaine qui n'a plus d'espoir, qui prend aujourd'hui l'océan Atlantique pour aller chercher l'Eldorado, qui est devenu cimetière pour nous, pour nos enfants. Mais cet argent qui doit leur donner de l'espoir est mis dans des banques en Genève, en France, en Singapour, etc., par des gens qui détournent l'argent de nos pays. Donc aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est le leadership, transformational leadership qu'on a besoin, des gens qui peuvent venir servir leur continent et pas venir pour se servir. Et c'est partout dans le continent.
Sur la base de cela, est-ce que ça vous donne envie de faire de la politique? Ça vous tente?
Ce qu'on est en train de faire, moi je le trouve déjà que c'est de la politique, mais c'est différent. C'est de la politique. Moi j'ai décidé quand je suis arrivé au Sénégal, en Afrique, de ne pas aller faire de la politique politicienne, parce que ça c'est le plus facile pour le monde pour le faire. Tu n'as qu'à beaucoup crier dans les réseaux sociaux, aller dans les télés parler, crier le nom de certains présidents, après tu es nommé, vous êtes élu ou quelque chose, après tu deviens comme tout le monde. Mais à mon arrivée au pays, la première chose, c'était de voir d'où est-ce que je peux aider. Parce que les politiques ne manquent pas dans le continent. Dans mon pays d'origine, le Sénégal aujourd'hui, par exemple, a 300 et quelques partis politiques. Pour un pays de 17 millions de personnes. Ça vous dit exactement ce que je veux dire là-bas, que c'est pas sérieux. Ça veut dire que ces 300 et quelques partis politiques, imagine si chacun juste créer une fondation pour faire des training pour les jeunes, pour des non-profit organizations, etc. Mais tout le monde veut un poste public pour pouvoir vivre et survivre et aider ses amis. Donc, je me suis allé au village. Je suis allé au village pour travailler d'abord à la base, essayer de donner de l'espoir à la jeunesse africaine et contribuer comme je peux, sans la politique pour l'instant. Et ça, c'est déjà de la politique, c'est la contribution que je peux amener à mon niveau là où je suis aujourd'hui, en 2022.
Vous ne pensez pas à un poste électif plus tard dans votre vie?
Bon, le futur, on ne sait pas. Ça, c'est Allah qui va décider ça. Mais là où je suis, ce qui est important, c'est que je suis en train d'apporter ma contribution sur le développement de mon pays. Et je sais que mon pays est en construction et a besoin de ses enfants. Le gouvernement en place est en train de faire ce qu'ils peuvent. Maintenant, ça dépend de nous tous, les enfants de ce pays, partout où on est, d'apporter notre contribution. Donc, c'est ce que je suis en train de faire sur un lot of different space, sur l'agriculture, avec la formation des jeunes, pour leur montrer que c'est possible, on peut produire ce que nous mangeons, on peut nous-mêmes contrôler notre agriculture, au lieu d'envoyer de l'argent à l'extérieur, mais aussi sur la technologie que j'ai lancée, Give One Project Digital Academy à Sali, ou du jeune des bourses, je forme les jeunes sur la cybersécurité, sur le data, tout ce qui est artificial intelligence, etc. Et la même chose pour l'école que je viens de lancer tout récemment, le centre pour les femmes, pour le training pour les femmes, qui est exclusivement pour les femmes, pour les aider à se développer, mais aussi de lancer leurs entreprises. C'est ce genre de travail que je suis en train de faire au-delà de Dakar, dans les villages et partout au Sénégal et dans le continent.
C'était l'auteur et entrepreneur social Thion Nyang au micro de Abdourahmane Dia. La star américaine du basketball Brittney Griner est arrivée ce vendredi matin à Houston dans l'État du Texas. Alors que l'administration Biden célèbre sa libération, des voix s'élèvent pour faire libérer d'autres Américains retenus en otage à l'étranger, notamment Paul Whelan, détenu en Russie depuis 2018. Plus de détails dans ce reportage du chef de bureau de la Maison-Blanche de la VOA, Patty Witsakustara. Le récit est de Thierry Kaoré.
Le président Joe Biden et Sheryl Griner, épouse de Brittney Griner, ont célébré la libération de la star de la basketball qui était détenue en Russie sous des accusations de possession de drogue depuis le mois de février. Les responsables de l'administration promettent de continuer à travailler pour libérer Paul Whelan, un Américain détenu également en Russie depuis 2018 en vertu d'une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Il ne s'agissait pas de choisir quel Américain ramener à la maison. Le choix était un ou aucun.
Biden et son administration avaient initialement cherché à libérer Griner et Whelan en échange du marchand d'armes Victor Boot, un citoyen russe reconnu coupable en 2011 de conspiration visant à tuer des Américains et condamné à 25 ans de prison. Ils ont finalement accepté d'échanger Boot contre uniquement Griner. La famille de Whelan a déclaré qu'elle soutenait cette décision. David Whelan, frère de Paul Whelan.
Pour moi, il est logique que le président dise qu'il y a un Américain qui pourrait rentrer chez lui. Et c'est vraiment le seul accord disponible à l'heure actuelle que le gouvernement russe était prêt à échanger Victor Boot contre Brittney Griner. Pour une raison quelconque, Paul est au-delà de ce que le gouvernement russe a été en mesure de faire comme concession potentielle.
David Whelan a déclaré que sa famille craint que leur frère Paul ne soit pas libéré avant des années. Paul Whelan et sa famille ont été informés de la libération de Griner par des responsables de l'administration avant que Biden ne la rende publique. Écoutons le président américain Joe Biden.
Nous restons en contact étroit avec la famille de Paul, la famille Whelan, et mes pensées et mes prières sont avec eux aujourd'hui. Ils doivent avoir des émotions tellement mitigées aujourd'hui.
La basketteuse Griner a été échangée contre Boot à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont dit dans une déclaration que le succès des efforts de médiation reflétait les liens entre les deux pays, la Russie et les États-Unis. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que seuls les États-Unis et la Russie étaient impliqués dans les négociations.
Il n'y a pas eu de médiation impliquée. Nous sommes reconnaissants aux Émirats arabes unis, comme le président l'a mentionné, comme je le mentionne maintenant, pour avoir facilité l'utilisation de leur territoire pour que l'échange ait lieu. Nous sommes également reconnaissants à d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, qui a rendu publique la question de nos Américains détenus à tort par le gouvernement russe, qui ont soulevé cette question.
Si le cas de Whelan est très médiatisé, il y a beaucoup d'autres moins connus. Selon un fonctionnaire du département d'État, entre 40 et 50 Américains sont détenus à tort par des gouvernements étrangers et beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas du même niveau d'attention médiatique que Whelan et Griner.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté Mouamadou Koumfa. Plus d'informations, c'est sur notre site web voaafrique.com. Au revoir.